sous la coupole. Une retransmission proposée par Canal Académie.
Ça va aller, c'est une chose qui arrive. C'est d'ailleurs significatif sur ce sujet. Alors, ces conférences, je le dis quand même pour les quelques personnes qui ne sont pas au courant, s'inscrivent dans le cadre d'un dictionnaire encyclopédique des auteurs du centre-est européen depuis 1945. Et donc, c'est pour parler un peu de ce dictionnaire encyclopédique que nous avons organisé ces quatre conférences dans l'année, dont celle-ci est la dernière. Et comme dans ces pays, la question du populisme se pose de façon parfois aiguë, on a pensé qu'il serait bien d'avoir une conférence sur le thème du populisme, mais j'ai souhaité que ce soit une conférence qui cherche autant d'objectivité que possible, donc faite par un conférencier qui ne soit pas uniquement dans l'injure, ce qui est le cas d'un très grand nombre de personnes sur ces sujets-là. Et donc je remercie à ce titre Vincent Cousselière d'avoir bien voulu venir pour nous apporter ces lumières, parce que vraiment je trouve que sur ce sujet-là, nous en avons très peu. Donc merci beaucoup, et puis je vous laisse la parole et il y aura des questions après.
Voilà. Là aussi.
Celui-là aussi.
Voilà. Voilà. Bonsoir à tous et merci à Chantal Delsol de m'avoir invité à cette conférence. Je suis un peu intimidé dans ce cadre magnifique. Et ce qui me vient à l'esprit pour débuter sur cette question du populisme, c'est un peu une remarque de Nietzsche, quand Nietzsche parle du nihilisme. Et quand Nietzsche parle du nihilisme, il dit que pour comprendre et connaître le nihilisme, il faut peut-être soi-même être un peu nihiliste. Alors, pour comprendre le populisme, peut-être faut-il être un peu soi-même un peu populiste. Voilà. Alors, le sujet de la conférence est vaste, hein, très très vaste. Déjà, la question du populisme, c'est une question extrêmement complexe, confuse. Et en plus, vouloir traiter cette question au niveau européen, c'est vraiment une gageure. Alors, je vais essayer de m'arrêter sur l'essentiel, hein, de pointer l'essentiel, mais il faut pas se masquer les choses, c'est une question extrêmement complexe. Alors, souvent, on se réfugie aussi derrière ça, hein. Quand on parle du populisme, on dit, voilà, c'est une notion polysémique, etc. Bon, c'est vrai que la démocratie, le totalitarisme, ce sont aussi des notions et pas des concepts, hein, qui sont extrêmement complexes, et il faut essayer de distinguer différents plans, hein, pour pouvoir savoir de quoi on parle. Alors, voilà, je vais vous proposer une approche philosophique, hein, peut-être, enfin, j'espère, du populisme. Je ne suis pas un spécialiste de l'Europe centrale, je ne suis pas un spécialiste de sciences politiques, je suis un philosophe, et donc je vais aborder cette notion en philosophe. Hein. Et peut-être que c'est utile pour cette notion, puisque la philosophie, c'est peut-être aussi mettre un peu de distinction dans l'usage des mots, justement essayer de faire en sorte que les mots renvoient à des réalités et pas à des choses imaginaires. Hein. Donc je pense qu'il y a un effort à faire de définition, de distinction, avant de parler du populisme. Donc, dans un premier temps, je vais vous proposer justement de partir des usages de la notion. Hein, ce qui peut être aussi une approche philosophique, partir des usages du langage, de la manière dont on utilise cette notion dans le langage courant, et aussi beaucoup aujourd'hui, bien sûr, dans les médias. Donc je vais essayer de partir dans un premier point de ça. Que veut dire le populisme aujourd'hui? Quel est l'usage de la notion? Et je vais peut-être constater une certaine confusion et je vais voir si la science politique réussit à, si vous voulez, sortir de cette confusion. Voilà. Donc je vais partir au niveau empirique, hein, de voir à quel point la notion de populisme est utilisée à toutes les sauces, et je vais voir ensuite si la science politique nous éclaire sur cette notion. Et je vais vous avouer que je vais faire dans un premier temps une critique de la critique habituelle du populisme, hein, puisque le populisme, généralement, est une notion péjorative qui est utilisée pour, de manière très critique. Donc d'abord, premier point, ça sera donc de faire une critique de la critique habituelle du populisme. Mon deuxième point, ça sera de déplacer la perspective sur le populisme. Hein, ce que j'ai essayé de faire depuis 2012, en publiant un essai qui s'appelle « Éloge du populisme ». Alors, je me situais dans une tradition de l'éloge paradoxal, n'est-ce pas ? Je ne faisais pas un éloge de la démagogie populiste, hein, mais à travers cet éloge du populisme, j'essayais de montrer que le populisme, finalement, nous renvoie à un phénomène beaucoup plus profond que ce qu'on appelle habituellement le populisme, la démagogie partisane, etc. Donc mon deuxième point, ça sera de développer l'idée d'un populisme du peuple, hein, ce que j'appelle un populisme du peuple, c'est-à-dire je vais critiquer dans un premier temps donc l'utilisation de la notion de populisme pour montrer que cette notion de populisme doit nous conduire à changer de plan, pas rester au plan des systèmes partisans et des mouvements dits populistes, mais nous placer au plan des peuples eux-mêmes et de la situation des peuples eux-mêmes. Et pour moi, l'unité du phénomène, s'il y en a une, au niveau européen, se joue au niveau de la situation des peuples eux-mêmes, pas au niveau, si vous voulez, de l'expression partisane, etc. Ensuite, dans un troisième point, si on définit le populisme comme, si vous voulez, quelque chose qui se passe au niveau des peuples eux-mêmes. Et, comme je le dirais, pour moi, le populisme, c'est le retour du refoulé des peuples. Hein, j'emprunte un peu une image psychanalytique. Le populisme, c'est le retour du refoulé des peuples. Si on développe cette idée, il faut alors poursuivre. Si on dit que le populisme, c'est le retour du refoulé des peuples, ça veut dire que, un, les peuples existent, donc le populisme nous force à repenser les peuples, puisqu'il est le retour du refoulé des peuples. Deux, quelles sont les forces, quel est le surmoi qui a conduit à ce refoulement des peuples. Donc, quelles sont les forces qui ont conduit en Europe à une forme de refoulement théorique et pratique des peuples. Ce sera mon troisième point. Et c'est ici qu'il faudra peut-être faire des distinctions entre les peuples et les démocraties de l'Ouest et les peuples d'Europe centrale et de l'Est. Hein, puisque l'histoire n'est pas la même et les forces qui, dans les deux cas, ont décomposé les peuples, ne sont pas les mêmes, même si le résultat est peut-être le même. Enfin, dans un dernier point, si on analyse donc le populisme comme un populisme du peuple, comme quelque chose qui va du bas vers le haut, et non pas comme quelque chose qui va du haut vers le bas, c'est-à-dire comme une idéologie. Si on analyse le populisme comme une demande des peuples de redevenir des peuples, la question qui se pose, c'est comment satisfaire cette demande. C'est-à-dire, que serait une politique du peuple, ou une politique, si vous voulez, de réinstitution du peuple. Et j'essaierai de montrer que ces questions sont des questions qui nous reconduisent à des thèmes classiques de la philosophie politique que nous avons complètement oublié. Alors, je démarre par ce premier point, qui est donc de proposer une critique de la critique habituelle du populisme. Et pour ce faire, je vais partir de l'usage de la notion. Partons de l'usage de la notion de populisme et de la définition courante de la notion pour faire peut-être la critique de cette notion. Alors, quand on parle du populisme, de la montée des populismes, des populistes, la première chose, ça serait déjà de savoir de quoi on parle, de qui on parle, qui sont, qu'est-ce que le populisme, qui sont les populistes. Généralement, on définit le populisme comme une forme de démagogie qui en appelle au peuple contre les élites. Bon, ça c'est un truc qu'on répète tout le temps, etc. C'est le pont aux ânes de la pensée du populisme. Le populisme, c'est une forme de démagogie qui en appelle au peuple contre les élites, qui a tendance à idéaliser le peuple, à diaboliser les élites, etc. Bien. Alors, à ce moment-là, si on définit le populisme comme ça, il devrait concerner essentiellement des démagogues. Et le démagogue, c'est forcément un chef de parti ou quelqu'un qui aspire à gouverner. Ce n'est pas le peuple lui-même. Alors parfois, par contre, on dit la montée du populisme. Alors là, c'est le peuple qui devient populiste. Alors il faudrait savoir, est-ce que ce sont les démagogues qui sont populistes, les gouvernants qui abusent le peuple, qui les flattent, etc. Ou est-ce que c'est le peuple lui-même qui est populiste? Ensuite, on pourrait s'interroger sur le fait que cette critique du populisme, qui est donc en général une critique de la démagogie, s'adresse essentiellement aux partis, aux mouvements politiques, rarement aux médias. Quand on regarde la couverture de beaucoup de nos hebdomadaires célèbres, on peut se dire que le populisme aussi, il y aurait peut-être une analyse à faire du populisme médiatique qui n'est pas forcément tellement développé. Souvent, la couverture des médias dit « on en a marre de ceci et de cela ». Donc, les médias parlent au nom du peuple, ce qui est la définition classique du populisme, de la démagogie. Parler au nom du peuple et s'instituer comme ça en représentant du peuple. Donc voilà, il y a déjà là, qui est populiste Et déjà là, il y a vraiment une confusion. Alors, dans l'usage majoritaire, on vise effectivement par populisme le système partisan, un ensemble de partis et de mouvements politiques. Voilà. Et qu'on va donc accuser de démagogie. Très bien. Alors, le problème, c'est que on qualifie ainsi des partis, si vous voulez, dans un sens, dans une extension qui est extrême. D'abord, une extension géographique. Ce qui n'est pas forcément un problème, ça correspond peut-être à une réalité. Donc, extension géographique, le populisme serait présent partout en Europe. Il serait présent dans l'Europe du Sud et de l'Ouest. J'énumère rapidement Syriza en Grèce, Podemos en Espagne, le Front National et le Front de Gauche en France, le Mouvement 5 étoiles en Italie, le Parti des Libertés en Autriche, l'UDC en Suisse, l'UKIP en Royaume-Uni, l'AFD en Allemagne. En Europe centrale, du Nord, de l'Est, le FPO en Autriche, le Parti du Peuple au Danemark, le Fidesz en Hongrie, le Parti du Progrès en Norvège, et j'en passe, et des meilleurs, que j'ai oubliés. Donc, on est effrayé. Le populisme a une extension géographique maximale. Il est ce nouveau spectre qui hante le monde et l'Europe. Anecdote intéressante, un des premiers ouvrages sur le populisme, publié par Gellner et Ionescu en 1969, commence par le détournement d'une phrase de Marx. Le nouveau spectre qui hante l'Europe, ce n'est pas le marxisme, le communisme, c'est le populisme. C'est intéressant. Donc cette tentation de faire du populisme la nouvelle idéologie, etc., elle est ancienne. Elle apparaît déjà en 69 dans le livre de Gellner. Alors voilà, extension géographique. Ensuite, extension politique de la notion. C'est-à-dire qu'on ne s'y retrouve plus politiquement dans le populisme. Plusieurs axes qui permettent de comprendre le phénomène semblent problématiques. Un premier axe, c'est de dire le populisme qualifie des partis protestataires. On a souvent parlé du populisme protestataire et on l'a opposé à des partis de gouvernement. Et on voit bien que cet axe ne fonctionne plus, puisque les partis populistes sont au gouvernement dans beaucoup de pays et sont protestataires dans d'autres. Ils sont au gouvernement en Suisse, ils ont participé au gouvernement avec l'UDC de Blocher, ils ont participé au gouvernement avec le FPO de Haider en Autriche, ils sont au gouvernement en Hongrie avec le Fidesz. Donc l'opposition protestataire-gouvernement, pour définir le populisme, n'est pas non plus quelque chose qui fonctionne. Ensuite, il y a l'axe gauche-droite, pour essayer de repérer le populisme à un niveau partisan et pour sortir de la confusion. Mais l'axe gauche-droite ne fonctionne pas non plus, puisque dans l'énumération que j'ai faite des partis populistes, on voit bien que nous avons des partis populistes de gauche, comme Syriza, comme Podemos, comme le Front de gauche en France, et populistes à droite, voire à l'extrême droite, parce que parfois, voilà, on ne sait pas trop où se situe la limite. Donc voilà, l'axe gauche-droite aussi est fort problématique. Et j'en ai pas fini, il y a ensuite une extension temporelle de la notion. Le populisme, ça a toujours existé. Où ça commence, où ça finit. Il y a sans doute une préhistoire du populisme. Très certainement, il y a une préhistoire du populisme. Si on entend par populisme une forme de démagogie, qu'on peut repéré dans la Grèce antique, comme vous l'avez fait, Chantal Dessol. Préhistoire du populisme dans la démagogie des tyrans antiques, mais aussi dans la théorie antique, puisque Aristote est un des premiers théoriciens du populisme compris comme démagogie. Ensuite, il y a le populisme des partis qui se sont revendiqués vraiment comme tels, ou des mouvements qui se sont revendiqués vraiment comme tels, le populisme russe, et le populisme américain au XIXe siècle, qui sont les seuls, d'ailleurs, c'est peut-être une chose qu'il faut garder en tête, à s'être revendiqués comme populistes. Parce qu'il faudrait quand même se poser la question que le terme de populisme, c'est un terme qui est utilisé par les analystes, mais qui n'est pas utilisé par les mouvements eux-mêmes, qui s'intitule dans une diversité, Front National, Parti de la Liberté, Parti, etc. Donc, les seuls mouvements et partis qui se sont revendiqués comme populistes, c'est effectivement le populisme historique russe et américain au XIXe siècle. Donc, extension temporelle de la notion. Le populisme, il faut remonter où ? Alors, le populisme en France, il faut remarquer quand même que le mot apparaît très tardivement dans la langue française. Il apparaît au début du XXe siècle et il désigne d'abord un courant littéraire avec un prix de la littérature populiste, donc pas du tout avec la connotation qu'il a actuellement. Alors on se demande, est-ce que le populisme apparaît chez le général Boulanger, chez Poujade, voire chez le général de Gaulle, puisque le général de Gaulle était partisan d'aller vers le peuple. Il y avait une conception du peuple que certains théoriciens ont dit, ouais, ça se rapproche du populisme. Voilà, donc j'ai passé rapidement en revue, si vous voulez, l'extension extraordinaire de cette notion que la science politique va chercher à penser, va chercher à ramener à l'unité d'un concept ou d'une notion. Voilà le défi de la science politique. Comment, face à cette extension, à cette généralité de la notion, pouvoir saisir une unité par-delà cette diversité. Alors, je dirais c'est que la science politique oscille entre une interprétation du populisme, je dirais une interprétation forte et une interprétation plus faible. Interprétation forte, c'est de dire que le populisme est une forme d'idéologie. Par conséquent, la critique du populisme est un nouveau chapitre à ajouter à la critique des idéologies. Hein ? Ça, c'est une première, si vous voulez, tentation de la science politique. Et je dirais que la science politique aussi, entre cette tentation, le populisme est une nouvelle forme d'idéologie, dont j'ai montré qu'elle était dès l'origine dans la comparaison avec le communisme. Et puis ensuite, il y a la tentation de l'identifier à une forme de démagogie, c'est-à-dire d'idéologie très molle. Le populisme devient une simple forme, un style, comme le dira Pierre-André Taguieff, un style de discours, une forme de démagogie, mais qui n'a pas de consistance idéologique propre. Hein. Donc je dirais que la science politique aussi entre ces deux pôles. Soit on considère le populisme comme une idéologie, la montée du populisme, la montée du nazisme quasiment, hein. Soit on considère le populisme comme une forme de démagogie très générale et qui a beaucoup moins de consistance propre, de consistance idéologique. Alors, je ne vais peut-être pas rentrer dans le détail, parce que ce qui est intéressant, ça serait de faire la généalogie de la notion, c'est-à-dire de voir comment cette notion est apparue dans les sciences politiques, de voir à quel moment elle apparaît, pour interpréter quoi, et comment elle va se diffuser. À mon avis, il faut faire ce travail pour comprendre peut-être le caractère en partie idéologique de l'usage de la notion. Donc, usage idéologique qui ne serait pas seulement celui des médias, etc., mais qui serait déjà quelque part un petit peu inscrit dans la manière dont la science politique théorise la notion. Bon, alors là, je n'aurai pas le temps. Je peux vite mentionner les choses. Hein, la notion de populisme telle qu'on l'entend donc de manière contemporaine, elle ressurgit dans le débat dans les années 80, et particulièrement en France. Hein, c'est-à-dire que nous avons en France des penseurs du populisme qui ont été particulièrement actifs. Je pense à Pierre-André Taguieff sur le plan de la science politique, je pense à Guy Hermet sur le plan de l'histoire, je pense plus récemment à Dominique Régnier, hein, et qui propose des travaux très intéressants, et en même temps, est-ce qu'ils arrivent vraiment à saisir, si vous voulez, l'unité du phénomène? Est-ce que, voilà, que va devenir, parce que mon idée c'est un peu ça, c'est que la manière dont ils vont théoriser cette notion va un peu se vulgariser dans le monde médiatique, finalement, on va avoir un peu une simplification de leurs travaux et une caricature un peu de leurs travaux qui va être peut-être préjudiciable à la compréhension du phénomène. Et Pierre-André Taguieff lui-même en a conscience, puisque dans un de ses derniers ouvrages qui s'appelle « La revanche des nationalismes », il revient un peu en arrière sur sa théorisation du populisme. Et il montre aussi dans son livre précédent sur la dédiabolisation du Front National, il est conscient que finalement sa théorisation du populisme a donné lieu à une vulgate qui ne nous permet pas de comprendre véritablement ce qui se passe. Alors, quelle est un peu la théorie de Taguieff, hein ? Ben, il oscille justement, hein, entre une conception idéologique du populisme, donc qui donne au populisme une véritable substance, qui est proche finalement d'une forme de nationalisme. Hein ? Le populisme serait une... Il parle de populisme identitaire, Pierre-André Taguieff. Hein ? Il parle même beaucoup plus fortement d'un national-populisme. Alors là, franchement, voilà, on met le populisme dans la lignée, hein, national-populisme, hein, des idéologies fascistes et nazies. Donc là, c'est extrêmement, voilà, extrêmement dramatique. Donc d'un côté, il y a ça chez Taguieff. Et puis d'un autre côté, il dit parfois que le populisme n'est pas vraiment une idéologie, est un bricolage idéologique. Hein, et là, je pense qu'il est plus proche de la réalité. Le populisme est un bricolage idéologique. Et du coup, il va aller plutôt vers l'idée que le populisme étant un bricolage idéologique, il est plutôt à interpréter comme une démagogie, comme une forme de démagogie, voilà, qui oppose le peuple aux élites, qui repose sur un discours immédiat, où on promet des résultats immédiats, voilà, les élites corrompues, le peuple innocenté, etc. Donc là, il fait finalement, il finit Taguieff par faire une théorisation du populisme extrêmement générale. Parce que si on théorise le populisme comme une forme de démagogie qui oppose le peuple aux élites, etc., c'est extrêmement général. Hein, les mailles du filet sont très très grandes. Et alors, à ce moment-là, finalement, en désubstantialisant le populisme idéologiquement, à ce moment-là, comment le combattre, hein, si on le critique comme simple démagogie, oui, est-ce que cette critique ne peut pas créer un retour du boomerang, hein, parce que la démagogie est peut-être une chose relativement partagée dans les systèmes partisans européens. Hein, donc voilà, il y a cette oscillation entre le populisme comme idéologie dure, mais en fait on ne la trouve pas, parce que si on analyse les différents mouvements populistes, comme je l'ai montré au début, gauche, droite, etc., c'est du bricolage. Hein, et en même temps, si on va sur le populisme comme forme de démagogie très générale, ben à ce moment-là, on est plutôt dans une critique qui n'est pas une critique politique. Parce que faire une critique de mouvement populiste en termes de démagogie, ça suppose de montrer en quoi ils sont démagogues. Parce que le démagogue, c'est celui qui est censé flatter le peuple pour ne pas servir le bien commun, hein, et pour chercher son propre pouvoir. Mais à ce moment-là, il faut dans chaque cas montrer en quoi on a affaire à une simple démagogie. Et ça évite aussi, finalement, de faire une critique politique des mouvements populistes. Donc, si vous voulez, pour conclure, je pense que cet usage de la notion de populisme, elle est scientifiquement peu pertinente si on pense que le populisme, c'est des systèmes partisans, vu la diversité que j'ai montrée au départ. Et d'autre part, elle est politiquement, pratiquement, s'il s'agit de lutter contre ces mouvements, j'en sais rien. Mais s'il s'agit de lutter contre ces mouvements, elle est contre-productive, cet usage de la notion, parce qu'elle cherche à disqualifier le populisme de manière morale, mais sans entrer dans la question pourquoi c'est démagogique telle proposition et pourquoi telle autre des partis de gouvernement ne le serait pas. Il faut rentrer dans le débat politique. Il ne faut pas se contenter de vouloir déduire la diversité des mouvements populistes d'une idéologie qui n'existe pas. Donc, si vous voulez, pour conclure, je pense que sur ce point, l'usage de la notion de populisme, systématiquement péjoratif et absolument flou, comme j'essaie de le montrer, nous renseigne davantage sur ceux qui l'utilisent que sur les mouvements qu'elle est censée désigner. C'est pourquoi, mon deuxième point, mon propos, depuis cet éloge du populisme paradoxal que j'ai proposé en 2012, hein, mon propos est de changer de plan. Et de changer de plan pour comprendre que le populisme, si vous voulez, nous renvoie à quelque chose de beaucoup plus profond que la simple démagogie de partis dits populiste. Et mon deuxième point, donc, c'est de développer l'idée que le populisme nous renvoie à la question des peuples mêmes. Et que le populisme, si vous voulez, c'est quelque chose qui nous permet de décrire la situation des peuples eux-mêmes, et des peuples européens peut-être. C'est-à-dire l'unité du populisme n'est pas à chercher dans la dimension de la représentation, qui est celle des partis et des mouvements populistes. L'unité du populisme, elle est à chercher dans une philosophie et une phénoménologie des peuples. Voilà, en faisant un éloge du populisme, je ne faisais pas un éloge des méchants démagogues, mais un éloge peut-être des peuples. Alors, comment je propose de redéfinir donc cette notion de populisme en changeant de plan? Et qu'est-ce que j'appelle le populisme du peuple? Eh bien, ce que j'appelle le populisme du peuple, j'ai utilisé une formule que je reprends, qui est aussi une métaphore, de cette manière. J'ai dit le populisme, c'est le retour du refoulé des peuples européens. Donc c'est quelque chose qu'il faut saisir à ce niveau-là. Est-ce qu'il y a eu ou pas un refoulement des peuples européens? Et qu'est-ce qu'un peuple? Parce que si on dit le populisme, c'est le retour du refoulé des peuples européens, ça suppose, si on dit le populisme, c'est le retour du refoulé des peuples européens, ça veut dire qu'on a deux présuppositions. Les peuples existent. Retour du refoulé, donc les peuples existent. Et d'autre part, ils ont été soumis à une forme de refoulement. Donc c'est ça qu'il faut expliciter. Il faut expliciter qu'est-ce qu'un peuple, pourquoi les peuples existent, et je devrais préciser, ma formule est un petit peu trop concise, retour du refoulé des peuples européens, je dirais retour du refoulé des peuples politiques. J'aime utiliser cette expression de peuple politique, pas de démocratie, mais de peuple politique. Donc, voilà, le populisme, c'est le retour du refoulé des peuples politiques. Et donc, si on comprend le populisme comme ça, comme retour du refoulé des peuples politiques, il faut, si vous voulez, poursuivre la métaphore freudienne. Il faut éclairer qu'est-ce qui a été refoulé? La pulsion des peuples d'être des peuples. Le désir des peuples de continuer à être des peuples. Et quel est ce surmoi qui a refoulé ce désir des peuples de persévérer dans leur être et de continuer à être des peuples? Vous voyez, c'est comme ça qu'il faut prendre le problème. Et les partis populistes ne sont que le symptôme de ce refoulement. Mais on sait très bien avec Freud que le symptôme ne exprime la pulsion tout en la déformant. Ce qui peut nous expliquer peut-être parfois l'image grimaçante que peut prendre le populisme. Le symptôme, il exprime quelque chose, mais en même temps en le trahissant, en le déformant, il exprime quelque chose qui ne peut pas s'exprimer autrement. C'est ça le symptôme. Et mon hypothèse, c'est que beaucoup de partis populistes et de leaders populistes, si vous voulez, sont ce symptôme. Dans leur langage, dans les slogans utilisés, alors on peut s'offusquer, nous sommes le peuple, on est chez nous, etc. Oui, mais c'est le retour du refoulé. Et ce n'est pas en supprimant le symptôme qu'on supprimera la maladie. Il faut s'attaquer à la maladie elle-même, c'est-à-dire ce que j'appelle le populisme, c'est une forme de maladie des peuples, mais il faut penser la maladie de manière nietzschéenne. La maladie n'est pas le contraire de la santé, elle est parfois la lutte pour retrouver la santé. Donc pour moi, ce que j'appelle le populisme des peuples, c'est la lutte des peuples contre leur refoulement, qui a des dimensions à la fois théoriques et pratiques. Ce que j'appelle le populisme du peuple, c'est la lutte des peuples contre leur refoulement, contre leur destruction, et la tentative, eh bien, d'exprimer cette revendication de continuer à être des peuples. Donc le populisme nous place devant, si vous voulez, deux questions. Qu'est-ce qu'un peuple ? Les peuples existent. Peut-être le populisme nous rappelle que les peuples existent, si c'est le retour du refoulé des peuples. Les peuples existent. Et donc, le populisme nous renvoie aussi à nos responsabilités à la fois de citoyens et de philosophes. Les peuples existent. Pourquoi est-ce que nous avions oublié que les peuples existaient ? Pourquoi est-ce que nous avions refoulé cette idée de l'existence des peuples ? Après tout, à la fin du XIXe siècle, la notion de peuple était une notion extrêmement répandue chez nos grands penseurs. On peut penser, bien sûr, à Michelet, chez les historiens. On peut penser à Peggy. On peut penser à des gens moins connus aujourd'hui, qu'on a un peu oubliés, un grand penseur contemporain de la Troisième République, qui est Alfred Fouillé, remarquable penseur qu'il faudrait rééditer aujourd'hui, et qui a écrit une psychologie des peuples européens. Pour lui, il ne faisait pas de doute que les peuples existaient. Et je dirais que le général de Gaulle est, si vous voulez, un petit peu un des derniers représentants de cette pensée du peuple du XIXe siècle. Alors, pourquoi avons-nous refoulé, sur un plan théorique et pratique, si vous voulez, cette idée de l'existence des peuples ? Eh bien, on ne peut pas comprendre ça sans comprendre, bien sûr, le traumatisme des deux guerres mondiales et des conceptions totalitaire du peuple. Traumatisé par la réduction du peuple à la race, le peuple race, du nazisme, et traumatisé par la conception totalitaire du peuple classe, du communisme, eh bien, l'idée de peuple, là je parle sur un plan théorique, l'idée de peuple est devenue, après-guerre, suspecte. Dès qu'on parle de peuple, on nous soupçonne de parler d'un espèce de peuple individu, d'une essentialisation, essentialiser le peuple, comme peuple race ou comme peuple classe. Mais si on se replonge dans la littérature, j'insiste là-dessus, républicaine de la fin du XIXe siècle, et même si on va jusqu'à Rousseau, ce soupçon sur le peuple n'existe pas. Et il y a une richesse, il y a une pensée du peuple que nous avons perdue. Une pensée du peuple que nous avons perdue. Comme le disait le général de Gaulle, le peuple est une personne. Et aujourd'hui, le peuple n'est plus personne. Le peuple est une personne, un caractère, pas une identité. C'est ça peut-être aussi le souci, c'est qu'on a voulu réinvestir cette idée de peuple à travers la catégorie de l'identité, qui est problématique, effectivement. Penser le peuple sous la catégorie de l'identité, c'est vite prêter le soupçon à une essentialisation du peuple soit du peuple race, soit du peuple classe. Donc voilà. Pourquoi avons-nous refoulé cette idée de peuple, hein, de manière théorique, hein, parce que le traumatisme des conceptions idéologiques et totalitaires du peuple nous a finalement amené à penser le peuple comme plutôt comme une multitude, comme des individus. Et donc nous avons pensé la démocratie et le démos comme une multitude d'individus qui tiennent ensemble par le droit. Voilà comment, si vous voulez, hein, le traumatisme des deux guerres mondiales a débouché sur une conception de la démocratie, qu'on pourrait appeler une conception peut-être libérale, bon, ça se discute, hein, d'une certaine évolution, démocratie libérale, où on a d'un côté les individus et de l'autre côté l'État, le droit, qui les fait tenir ensemble, hein, traumatisés par les conceptions essentialistes du peuple. Donc voilà, vous voyez, le populisme, hein, réagit déjà à un refoulement théorique de la notion de peuple. Et puis, il y a bien sûr, alors après, on peut discuter sur, entre l'idéologie et la pratique, hein, qui détermine l'autre, où il y a un rapport dialectique entre les deux, mais le peuple n'a pas été seulement refoulé de manière théorique, pour laisser place à une conception donc de démocratie libérale, des individus, l'État, hein, dont le modèle peut-être est kantien. Hein. Voilà, une constitution parfaite peut même faire vivre ensemble un peuple de démons, hein, disait Kant. Donc Kant ne postule pas finalement une sociabilité pré-politique, hein, qui permet à un peuple d'être un peuple. Hein. On peut partir des individus, il est peut-être plus proche finalement de Hobbes, comme j'essaie de le montrer, de Rousseau, je viendrai sur Rousseau après. Donc, d'une part, le peuple est refoulé de manière théorique, mais il est refoulé aussi de manière pratique, hein, puisque, et là, c'est là qu'il faut distinguer, qu'il faudrait distinguer les causes du populisme comme retour du refoulé des peuples en Europe de l'Ouest et en Europe centrale et Europe de l'Est. Là, c'est là qu'il faudrait distinguer les choses. C'est que les peuples n'ont pas été soumis au même processus de décomposition de leur être politique. Du côté, si vous voulez, voilà, alors je reprends, qu'est-ce qui fait l'être politique d'un peuple? C'est à la fois sa capacité de s'autogouverner à travers un État souverain. Qu'est-ce que j'appelle un peuple politique? Sa capacité de s'autogouverner à travers un État souverain. Qui le représente, qui le reconnaît comme légitime. Donc un peuple politique, c'est déjà ça, hein, la capacité de s'autogouverner à travers un État souverain que le peuple reconnaît comme légitime parce qu'il le représente. Mais ce qui fait aussi l'existence d'un peuple politique, c'est que il faut déjà que ça soit un peuple. C'est-à-dire que pour qu'un peuple, si vous voulez, veuille donner la souveraineté, se donner la souveraineté à lui-même, d'une certaine manière, hein, à travers l'État, etc., il faut déjà qu'il se sente être un peuple. Il faut déjà qu'il ait le sentiment d'une certaine unité. Et donc, je pense que ce qui fait un peuple politique, c'est pas seulement la décision commune à travers un État souverain, mais c'est aussi une certaine unité des mœurs, une certaine sociabilité, une certaine amitié politique. Parce que donner la souveraineté au peuple à travers l'État, ça veut dire quoi? Si c'est donner la souveraineté à la majorité, si je suis dans la minorité, qu'est-ce qui va faire que je ne vais pas me sentir opprimé? c'est que je ressens une amitié politique plus profonde que la divergence d'opinion sur telle ou telle décision. C'est ce qui fait qu'une minorité va accepter la décision de la majorité. Donc, si vous voulez, je pense que souvent on ne voit pas ces deux niveaux. C'est-à-dire que pour le système de la souveraineté du peuple, de la volonté générale, pour que ce système fonctionne, ben il faut qu'il y ait quand même un peuple. Et que ce peuple, si vous voulez, partage suffisamment de choses pour qu'il consente de déléguer son droit, justement sa souveraineté, à la volonté générale. Alors, il se trouve que chez Rousseau, on néglige souvent cette idée chez Rousseau. On dit que chez Rousseau, le peuple, ce qui fait un peuple, c'est seulement, si vous voulez, la volonté générale, la décision commune. Mais chez Rousseau, il y a une pensée du peuple pré-politique. C'est-à-dire que pour que la volonté générale puisse exister, pour qu'elle soit véritablement générale et commune, et que chacun se reconnaisse en elle, il faut aussi un processus d'unification au niveau des mœurs. Il y a un extraordinaire passage dans le contrat social de Rousseau, où Rousseau distingue quatre types de lois: les lois politiques, les lois civiles, les lois pénales, et une quatrième sorte de loi, quatrième sorte, peut-être une autre sorte, pas une loi écrite, la loi des mœurs. La loi des mœurs. Hein ? Ça, c'est souvent négligé par les commentateurs. Il ne faut pas se concentrer seulement sur le contrat social. Il ne développe pas dans le contrat social ce qu'il appelle la loi des mœurs. Il en développe la nécessité dans le contrat social. Mais dans d'autres textes, justement, il s'interroge sur ce qu'il appelle la loi des mœurs. C'est-à-dire que l'acte par lequel un peuple est un peuple, pour Rousseau, n'est pas seulement un acte politique. C'est aussi un acte pré-politique. Le contrat social suppose un quasi-contrat, comme le disait Alfred Fouillet, un quasi-contrat. C'est-à-dire suppose une unification préalable qui ait lieu sur le plan des mœurs. Et qui ne se fait pas par la loi écrite, qui se fait par des processus qui sont tout autres. J'ai fait cette parenthèse. Qu'est-ce qu'un peuple, puisque je définis le populisme comme retour du refoulé d'un peuple? Et je dis le peuple, c'est deux choses. Ce n'est pas seulement la souveraineté de la loi, de la volonté générale, mais c'est aussi l'unité des mœurs. Or, je pense que ce qui fait l'unité du populisme, si je dis que le populisme, c'est la réaction des peuples à leur décomposition, et je pense que le populisme nous reconduit à ces deux aspects. C'est-à-dire que la revendication du populisme, ce qui fait une certaine unité par-delà la diversité empirique que j'ai développée au départ, ce qui fait une certaine unité du populisme, c'est la souveraineté d'un côté, d'un État qui nous représente, la capacité d'être gouverné par un État qui nous représente et qui soit souverain, parce que s'il n'est pas souverain, eh ben il est soumis à d'autres et donc il ne nous représente pas. Donc ça, ce qui fait l'unité d'un peuple, c'est la capacité de s'autogouverner par un État souverain, mais c'est aussi l'unité des mœurs. Et je pense que le populisme est une réaction face à la décomposition et de la souveraineté et des mœurs. Et c'est là que peut-être il y a une distinction, mais là vous serez plus savant que moi et on pourra s'éclairer mutuellement. C'est peut-être là qu'il y a une distinction à faire entre le populisme, si vous voulez, je dirais, dans les démocraties de l'Ouest, et le populisme de l'Est. Mon hypothèse, mais c'est vraiment, c'est une simple hypothèse, c'est que, si vous voulez, les peuples de l'Ouest et de l'Est, d'une certaine manière, c'est terrible ce que je dis, se rejoignent paradoxalement dans leur populisme, entendu comme populisme du peuple, c'est-à-dire comme réaction des peuples à leur décomposition et attachement à la souveraineté et à l'unité des mœurs. Voilà comment je vois les choses. À l'ouest, donc je pense les choses en repartant de la fin de la Deuxième Guerre mondiale. À l'ouest, on a pensé conserver notre souveraineté. Nous étions formellement souverains. Et les mouvements populistes, comme le Front National, sont partis, si vous voulez, ont réagi non pas à la destruction de la souveraineté en premier. Le Front National, au départ, n'était pas anti-européiste, anti-européen, mais ont réagi à la destruction des mœurs. Qu'à tort ou à raison, ils attribuaient à l'immigration, à mon avis, c'est une cause qu'il ne faut pas négliger, mais ça n'est pas la seule. Et ce qui décompose les mœurs des pays de l'Ouest avant l'immigration, c'est la mondialisation libérale sous domination américaine. Hein, donc là, je pense qu'on voit, si vous voulez, comment se développe le populisme d'Europe de l'Ouest. D'abord comme réaction à la perte des mœurs, parce qu'on croyait encore disposer de la souveraineté. Ah, la bombe atomique, c'est pas rien, hein, l'héritage du général de Gaulle, c'est pas rien, etc. Hein. Et inversement, mais comme je vous dis, je ne suis pas savant dans ces domaines, inversement, je me demande si le populisme à l'Est n'est pas d'abord une réaction à la perte, bien sûr, de la souveraineté, à la confiscation de la souveraineté, hein, qu'a représenté le glacis soviétique. Mais est-ce que, paradoxalement, sous ce glacis soviétique, une certaine vivacité des mœurs, hein, existence des mœurs, n'a pas continué à exister. Vous voyez l'idée d'un schéma opposé, c'est-à-dire que le populisme, c'est la volonté de conserver la souveraineté et les mœurs. À l'Ouest, c'est d'abord les mœurs dont on a ressenti qu'ils étaient attaqués. À l'Est, c'est d'abord la souveraineté. Et puis les choses vont se croiser, les deux courbes vont se croiser. Là, je donne une date comme ça, mais voilà, c'est en 92. 92, c'est deux dates. C'est la fin définitive de l'Empire soviétique, et c'est le traité de Maastricht et l'entrée dans l'Union européenne. Donc 92, voilà. D'un côté, les peuples de l'Ouest vont découvrir les abandons de souveraineté que représentait l'approfondissement de l'Union européenne. Et de l'autre côté, les peuples de l'Est entrant, si vous voulez, dans, étant libérés du joug soviétique et s'exposant finalement de manière peut-être un peu naïve à la mondialisation libérale, allaient subir sur le plan des mœurs, hein, c'est aussi tout le thème de la nostalgie de l'Est, etc., allaient subir sur le plan des mœurs une modification liée à cette mondialisation libérale. Voilà. Donc, est-ce que voilà, les choses ne se sont pas, voyez, rencontrées, hein, à partir de 92, et est-ce que finalement, alors les étapes successives, hein, 2004, l'élargissement de l'Europe à 24, etc. Les choses finalement les courbes se sont rapprochées. Et pour des raisons différentes, alors bien sûr, l'histoire est aussi différente. Hein, les peuples de l'Est n'aspirent pas seulement à retrouver la démocratie, ils aspirent parfois à la gagner, hein, et pas forcément à la rétablir, etc. L'histoire est totalement différente. Mais est-ce que finalement, il n'y a pas une forme quand même d'unité du populisme qu'il faut penser à ce niveau-là, non, au niveau des peuples eux-mêmes?
Je sais pas, c'est peut-être un peu trop touffu tout ça, hein, mais bon, voilà. C'est tellement gigantesque.
Vous allez pouvoir poser des questions.
Voilà, mais je encore un tout petit, peut-être, hein, un petit, peut-être encore un petit 10 minutes.
Allons-y.
Pour que ça fasse. Voilà. Alors, si on interprète le populisme comme ça, comme une réaction des peuples à leur décomposition, comme le retour du refoulé des peuples et leur demande de rétablir leur souveraineté et une certaine unité de mœurs, sans quoi cette souveraineté populaire ne peut pas finalement s'exprimer, déboucher sur quelque chose, puisqu'il n'y a pas une unité préalable des mœurs. Donc, si on interprète le populisme comme ça, comme finalement ce que j'appellerais, si vous voulez, une exigence archi-politique. Le populisme nous conduit vraiment, je pense, à des choses fondamentales. Et la crise du populisme, c'est une crise principielle, puisque c'est une crise sur les principes qui permettent à un peuple politique d'être un peuple politique. Si cette demande est bien aussi principielle que ça, archi-politique, est-ce qu'elle peut être satisfaite sur le plan, et là je boucle un peu la boucle par rapport à mon point de départ, est-ce que cette demande peut être satisfaite sur le plan du système partisan? Est-ce que des partis, fussent-ils populistes, peuvent satisfaire une telle demande? Puisque pour qu'un système partisan puisse exister, il présuppose l'unité d'un peuple reposant sur un État souverain et représentatif et sur une unité, une certaine unité de mœurs. Comment le système partisan pourrait refonder sa propre condition de possibilité? En ce sens, il n'y a pas de parti du peuple. Il n'y a pas de parti de la souveraineté ou de parti des mœurs. Et je pense que c'est ça qui est peut-être sous-estimé dans le défi que nous pose le populisme. Parce que ce défi n'est pas un simple défi de politique partisane. Ce défi est un défi archi-politique. Que veut dire réinstituer un peuple? Voilà, à mon avis, le point où nous en sommes. Que veut dire réinstituer un peuple? Que veut dire réinstituer la souveraineté populaire, hein, de l'État, hein? Et que veut dire réinstituer des mœurs qui sont le soutien, hein, de cette souveraineté? C'est un défi énorme. Et j'ai l'impression que les prétendants à la présidence dans divers pays ne mesurent pas le défi du populisme, parce qu'ils le prennent pour un défi simplement partisan. Non, c'est un défi de ce que j'appellerais la grande politique. La grande politique, c'est justement la politique qui est capable de réinstituer un peuple ou de le conserver dans son institution, hein, c'est ça la grande politique. C'est pas la politique partisane. Alors, voilà, que veut dire, à mon avis, la question que nous pose le populisme, c'est vraiment une question absolument fondamentale, hein, archi-politique. Que veut dire réinstituer un peuple? Et que peut être une grande politique de réinstitution d'un peuple? Il ne s'agit pas seulement de gouverner un peuple, il s'agit de le réinstituer en tant que peuple. Et on retrouve des thèmes fondamentaux de la philosophie politique classique. Quand Rousseau s'interroge sur le rôle du grand législateur qui s'occupe en secret des mœurs, extraordinaire formule, il place le défi de la grande politique à son niveau. Comment réinstituer un peuple dans sa double dimension de souveraineté légitime et d'une certaine unité des mœurs? Alors, je terminerai en disant deux choses. Je pense que l'histoire et la philosophie peuvent nous renseigner sur ce défi. L'histoire récente je pense que si vous voulez, quand le général de Gaulle crée les institutions de la Ve République, il réinstitue un peuple dans sa dimension politique, dans sa dimension de souveraineté. Et ensuite, il exerce cette souveraineté, il exerce cette grande politique d'indépendance de la souveraineté, et je pense que, comme le disait Romain Gary, dans ce magnifique texte qui est Ode à celui, j'ai oublié le titre, Ode à celui qui fut, ça me reviendra, magnifique texte de Romain Gary, où il dit que De Gaulle a créé un précédent. De Gaulle a créé un précédent. Et il n'est pas étonnant qu'on cherche à s'inspirer du côté de ceux qui voient d'abord la question du rétablissement de la souveraineté. Il n'est pas étonnant qu'on cherche à s'inspirer de De Gaulle. Par contre, je pense peut-être que le bilan de De Gaulle sur la question des mœurs, justement, et sur la question de la manière dont les mœurs sous-tendent, si vous voulez, la constitution et l'institution politique d'un peuple, eh bien, peut-être là, le bilan est plus problématique. Est-ce qu'on peut demander à un homme politique, fût-il un grand homme, de réinstituer un peuple sur le plan des mœurs? C'est bien un problème. Est-ce que c'est pas un défi qui dépasse la politique, même la grande politique? Et est-ce que Rousseau n'est pas lui-même un peu excessif quand il parle du grand législateur? Est-ce que c'est au grand législateur de réinstituer les mœurs? Alors ça renvoie à la question, et je voudrais terminer là-dessus. J'ai essayé de balayer un petit peu ce que j'essaie d'explorer dans différents ouvrages. Ça pose la question de comment s'auto-instituer un peuple sur le plan des mœurs. Et le rapport entre l'auto-institution du peuple sur le plan des mœurs et le plan de la loi, le plan du politique. Et là, je voudrais... alors, Rousseau ne fait que mentionner ce problème. La loi suppose les mœurs. La loi qui s'opposerait aux mœurs ne peut pas être efficace. Il dit même « mieux vaut pas de loi si on est certain qu'elle sera inefficace par rapport aux mœurs », parce qu'à ce moment-là, on disqualifie la loi et le prestige de la loi. Donc on a oublié cette question des mœurs, si vous voulez. Là, vraiment, c'est une conviction. On a oublié cette question des mœurs. La question politique, c'est pas seulement la question de la loi au sens juridique et politique, c'est aussi la question des mœurs, qui est vraiment présente dans la philosophie politique classique. Et donc, simplement pour indication et pour terminer, Rousseau nous indique ce problème du rapport entre les mœurs et la loi, de l'articulation entre les mœurs et la loi. Et je pense que la crise du populisme, c'est la même chose. Le populisme, c'est une double revendication qui porte à la fois sur les mœurs et la loi, et sur l'articulation des mœurs et de la loi. Rousseau ne fait que nous indiquer ce problème. Je pense, une piste que je vous signale, et que je n'ai pas le temps de développer, que je développe un petit peu dans mes livres, je voudrais attirer votre attention sur un penseur extraordinaire du 19e siècle, qui est Gabriel Tarde. Fin 19e, début 20e, Gabriel Tarde, c'est son problème, d'une certaine manière. Gabriel Tarde, qui est un penseur donc du social, de l'être social des peuples, de ce qui les tient ensemble par leurs mœurs. Et Tarde, si vous voulez, a été éclipsé complètement par Durkheim, qui nous dit qu'il faut traiter les faits sociaux comme des choses, alors que Tarde pense le fait social élémentaire comme un rapport d'imitation. Les hommes s'imitent. Ce qui fait, si vous voulez, la sociabilité des hommes, ce qui les fait tenir ensemble, ce sont des rapports d'imitation. C'est le fait d'imiter des mêmes modèles. Et ces rapports d'imitation, si vous voulez, précèdent, si vous voulez, l'unité d'un peuple ou sa volonté générale qui va s'exprimer dans la loi. Hein. Pour qu'il y ait une volonté commune, il faut qu'il y ait du commun. Et le commun, il se construit à un niveau politique par des rapports d'imitation. D'imiter les mêmes modèles. Hein. Et cette notion d'imitation, elle est très intéressante. Parce qu'elle nous permet de sortir, si vous voulez, de conceptions du peuple qui sont peut-être insuffisantes et pour lesquelles on se méfiait de la notion de peuple. Hein, pourquoi on se méfiait de la notion de peuple? Je l'ai dit tout à l'heure, le peuple, c'est une race, c'est une identité, hein, c'est quelque chose voilà, qui nous détermine. Hein, et on appartient à un peuple voilà, de manière complètement déterminée. Hein, et voilà, c'est ça qui garantit qu'on est de ce peuple. Il y a cette conception du peuple, pour appeler le nationalisme identitaire, puis il y a l'autre conception du peuple. Non, le peuple, c'est une liberté. C'est vouloir en commun des choses librement. Et c'est ça qui va construire un peuple. Donc on a cette opposition entre un nationalisme identitaire et un nationalisme civique, basé seulement sur le contrat, la liberté de décider ensemble, de vouloir ensemble. Il me semble que Tarde, avec cette notion d'imitation, nous indique, si vous voulez, une troisième perspective. Hein. C'est-à-dire que le peuple, et là j'articulerai ça à la notion d'assimilation dont on parle beaucoup. Hein. Il faut assimiler la nation, assimiler le peuple, etc. Ça veut dire quoi assimiler? On le dit jamais. On parle toujours, on invoque l'assimilation, mais on dit pas comment ça se passe, l'assimilation. Hein. Comment est-ce qu'on assimile? Ben, on assimile par imitation. Et l'imitation suppose des conditions. Hein, qu'est-ce qui fait qu'on va imiter des modèles communs? Qu'est-ce qui fait qu'on va imiter des modèles communs? Ben, d'une part, qu'on a le désir de les imiter. Donc l'assimilation suppose une certaine spontanéité. Hein. Pourquoi est-ce qu'on a le désir de les imiter? Parce qu'on estime que le modèle est supérieur. Donc il y a aussi un rapport d'inférieur à supérieur. On veut imiter un modèle parce qu'il incarne pour nous quelque chose de supérieur. Hein. Et enfin, l'assimilation, si vous voulez, dit Tarde, elle est unilatérale et pas réciproque. C'est pas le modèle qui imite le copiste, comme des parents qui vont bêtifier devant leurs enfants en leur parlant. Hein. Et si le modèle y fait ça, le copiste ne va pas s'élever au modèle. Donc voilà les trois règles que Tarde définit pour, si vous voulez, ce qu'il appelle l'assimilation imitative. Et je pense que ce serait très intéressant de réfléchir à ça pour penser ce qui fait l'être ensemble d'un peuple. Parce que assimiler, je termine, c'est rendre similaire. C'est rendre similaire. Donc c'est être à la fois actif et passif. C'est à la fois être actif et passif. Hein. Et voilà, je reçois des modèles. Hein, donc il y a une passivité, j'hérite de la nation, hein, mais en même temps, je désire imiter ces modèles et je me les réapproprie, je les fais miens, je rends similaire ce qui est quelque chose. Voilà, il faudrait distinguer assimilation, identification. Hein, voilà. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est que la question du populisme nous conduit. Je termine là-dessus, hein, voilà, en guise de conclusion. Hein, la question du populisme nous conduit à des questions mais essentielles. Essentielles, qui sont vraiment des questions, je dirais, philosophiques et de grande politique. Hein. Et je suis sceptique, si vous voulez, sur... Alors, autant je ne suis pas sceptique sur l'avenir du populisme, tel que je l'entends, puisque le populisme, tel que je l'entends, est une contradiction entre l'attente des peuples et l'offre des systèmes partisans. Donc, autant je ne suis pas sceptique sur l'avenir du populisme, autant je suis sceptique sur la capacité des systèmes partisans à satisfaire la demande populiste. Et donc, je pense malheureusement que le populisme a encore est un moment qui va encore durer. Voilà, excusez-moi, j'ai été un peu long.
On va interroger ceux qui veulent s'exprimer sur... Ceux qui veulent soit poser des questions, soit s'exprimer sur les populismes d'Europe centrale et orientale que nous connaissons beaucoup plus mal. Qui est-ce qui veut parler? Bernard Bourgeois.
Est-ce que je peux poser une question, mais en la délocalisant, concernant absolument pas particulièrement les problèmes de l'Europe centrale? Je peux poser une question générale.
Bon.
Vous avez évoqué le passage du peuple à l'État. Et vous avez dit que le peuple qui veut s'engager dans la construction d'un État doit se sentir lui-même être une certaine unité. Il doit sentir en lui une certaine amitié politique. Vous avez un autre moment, car, excusez-moi, je suis arrivé en retard et j'ai peut-être manqué des affirmations importantes de votre exposé. Vous avez un peu plus tard indiqué que le contrat social, vous évoquiez Rousseau, supposait un quasi-contrat. Alors, vous avez parlé, même alors presque vers la fin de votre conférence, du rôle de l'imitation. Quasi-contrat, imitation, amitié, cela désigne ce qu'on pourrait appeler très rapidement l'intersubjectivité.
Tout à fait.
Est-ce que la construction de l'État n'exige pas, en fait, d'unité ressentie, plus que l'intersubjectivité, c'est-à-dire une unité plus organique qu'on peut trouver, par exemple, dans la nation? Et ma question est la suivante. Est-ce que le populisme séparé du nationalisme, est-ce que le populisme n'exprime pas une démarche plus culturelle que proprement politique? Ma question supposant, de ma part, l'affirmation que le véritable médiateur pour passer de l'intersubjectivité à l'État, ce n'est pas le peuple, mais la nation.
C'est très intéressant, votre question. Vous êtes au cœur, au cœur des problèmes. Rapport entre peuple et nation, et rapport entre l'intersubjectivité et la nation.
Hein ?
Oui. Oui, mais les deux sont liés. C'est l'articulation des deux qu'il faut penser. Parce que, comment dire, moi, si vous voulez, alors, nation, peuple, pour moi, le peuple, ce que j'appelle le peuple, conduit à la nation. Il y a des cercles, si vous voulez, concentriques, par lesquels se transmet ce qu'on appelle la nation. Parce que la nation, finalement, c'est définir un certain nombre de caractéristiques communes d'un peuple, une langue, des mœurs, etc. Mais là, si vous voulez, pourquoi j'ai pas utilisé trop le terme de nation? Et pourquoi j'essaie de revitaliser le terme de peuple? Parce que pour moi, la nation reste quelque chose de transcendant, qui ne peut, être vivante que par l'action d'un peuple. Et quand je parle du peuple, je parle justement de l'imbrication des cercles intersubjectifs qui sont ceux de la famille. Parce que, par exemple, qu'est-ce qui transmet la langue? La famille. Donc, rapport entre des cercles intersubjectifs, rapport entre générations,
qui vont transmettre la nation. Parce que si on pense la nation comme héritage d'un certain nombre de caractéristiques communes, cet héritage, il est mort s'il n'est pas transmis. Donc pour moi, le peuple, c'est le sujet collectif, si vous voulez. Hein. C'est les individus en relation les uns avec les autres, sous le biais de l'imitation. C'est ça que j'appelle le peuple. Le peuple n'existe pas comme individu, si vous voulez. Hein. Et on a tendance à le penser comme individu dans un certain nationalisme, justement. Le peuple, c'est... n'existe que dans l'expérience qu'on en fait, à travers des relations d'imitation. Et c'est ce rapport d'imitation entre générations qui conserve ou pas, qui conserve à la fois la nation et qui, insensiblement, la transforme aussi. Hein, c'est pour ça que l'idée d'identité nationale ne me convient pas, parce que l'identité, ça fait trop penser à une identité mathématique, hein, ce que Paul Ricoeur appelait hein, l'identité idem, A égale A. À quoi Ricoeur opposait l'identité ipse, l'ipséité, le soi de la personne. C'est pour ça que j'ai fait référence à la conception de la fin du XIXe siècle des peuples, non comme identité, mais des peuples comme personne, comme caractère. Hein, ce qui suppose, comme la personne au niveau de l'individu, à la fois un rapport entre quelque chose de permanent et quelque chose qui change. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, pour moi, c'est le peuple à la fois reçoit la nation et la produit, comme le paysan produit le pays par des actions répétées d'imitation et de défrichage, sans quoi le pays, il est mort, comme quoi le locuteur répète la langue, sans quoi la langue devient une langue morte.
Oui, madame, allez-y, prenez votre micro, parce que ce sera plus commode.
Si je peux me permettre de rebondir un tout petit peu sur, enfin, ma modeste façon, sur la question posée par... par monsieur, j'ai été très gênée au cours de votre exposé par le fait que moi je m'interrogeais personnellement sur les différentes définitions entre peuple, nation, société, démocratie. Pensez-vous que le peuple c'est quelque chose d'homogène en quelque chose
un groupe homogène, vous voulez dire? Pardon. Est-ce que c'est un groupe homogène?
Voilà, l'expression est malheureuse. Pour moi, le peuple, ça n'existe pas. Il existe des nations. J'ai comme l'impression que dans la renaissance, entre guillemets, ce que vous appelez le retour de refoulé du populisme, c'est le mot peuple qui est revivifié en même temps. Or, est-ce que le peuple, en tant qu'entité homogène, existe? Voilà, je vous pose ça de façon un peu provocatrice. Quand, mais pour vous demander de nous préciser ou de creuser un peu votre pensée.
Non, mais vous avez raison d'avoir cette interrogation. Le peuple, au contraire, j'ai essayé de me démarquer, mais je ne peux pas, c'est un petit peu compliqué de développer de telles questions, hein, qui sont d'une très grande complexité. Parce que l'articulation de peuple, nation, république, même chez les philosophes, c'est d'une très grande complexité. Oui, oui, bien sûr. Qui est une définition de la nation plus que du peuple. Hein. Voilà. Mais alors, si vous voulez, non, au contraire, j'ai essayé de montrer que je ne considère pas le peuple comme un grand individu. Hein. Comme un grand individu qui serait au-dessus des individus et qu'on essentialiserait dans une définition, etc. Hein? Ça, c'est les conceptions du peuple dont nous avons hérité par les totalitarismes, hein, ce que j'appelais le peuple race et le peuple classe, et avec le chef totalitaire qui se veut l'incarnation de ce peuple conçu comme individu. Hein? Non, je ne considère pas du tout le peuple comme un individu. Le peuple n'est pas un individu, le peuple n'est pas une foule, le peuple n'est pas une masse. Ce n'est pas parce qu'on a 15 000 personnes dans un meeting qu'on a le peuple.
Le peuple n'existe pas en dehors, c'est pour ça que j'ai parlé de phénoménologie du peuple. Le peuple n'existe pas en dehors de l'expérience qu'on en fait par des relations intersubjectives basées sur l'imitation. Nous faisons l'expérience du peuple, mais le peuple n'est pas perceptible, le peuple n'est pas définissable. C'est pour ça qu'il faut aller à un niveau phénoménologique, mais nous faisons l'expérience du peuple. Alors, tout le monde me demande toujours une définition du peuple, mais comment est-ce qu'on pourrait définir le peuple? On ne le définit pas, on en fait l'expérience. Et on en fait l'expérience de manière très très simple, hein, par l'exil, par des tas de choses. Hein. Alors, ce que je n'ai pas bien compris dans votre réserve, c'est que vous aviez une réserve sur le peuple et vous ne sembliez pas en avoir sur la nation. Alors que le nationalisme est une certaine manière, justement le nationalisme identitaire, est une certaine manière de penser le peuple en le figeant, ce qu'on appelle l'identité nationale, dans des caractéristiques immuables. Moi, je ne pense pas le peuple comme ça, puisque je le pense comme relation intersubjective liée à l'imitation, à l'assimilation, à une transformation en même temps de ce dont on hérite, hein, une réappropriation, qui fait que le peuple va transformer la nation sur la longue durée. Prenons l'exemple de la langue. Hein. Les génies littéraires, qu'est-ce qu'ils font? Ils reçoivent la langue, hein, ils reçoivent la langue de la nation, et par leur génie, ils la transforment.
Non, c'est pas...
Donc c'est le peuple qui produit la nation comme le paysan produit le pays.
C'était pas des réserves, mais c'était pour la compréhension... pour essayer de comprendre ce qu'il y avait derrière le concept ou la notion de peuple qui se superposait ou était plus complexe pour moi quand on se mettait dans le cadre non pas d'un nationalisme politique étroit, identitaire, avec toutes les dérives dangereuses et les pathologies qu'on connaît, mais une nation est davantage homogène dans mon esprit qu'un peuple. Enfin, c'est peut-être erroné.
Une question sur le populisme d'Europe centrale.
Il y avait Fred qui voulait poser une question.
C'est ça?
Oui.
Moi, j'ai une question et une remarque, si vous permettez. Donc, la question, c'est quand est-ce que le peuple est né? Est-ce que c'est une... Dans votre acception, il me semble que c'est une réalité moderne, quand même, qui appartient à la modernité, le peuple qui s'autogouverne
le peuple politique, ouais.
Et qui a cette attirance aux coutumes, comme, aux mœurs communes, que c'est plutôt l'invention moderne et que l'ancien régime, le peuple dans cette acception n'existait pas, n'est-ce pas? Il pouvait y avoir plusieurs groupes avec des minorités, des mœurs tout à fait différentes. Si on voit des entités politiques de l'époque, soit-elles en Europe centrale ou occidentale, on le voit qu'aucune unité des mœurs ou presque n'existait pas sous le
bien sûr.
Ou autre règne. Ni probablement aucune volonté de souveraineté non plus, sauf la reconnaissance de souverain, du roi, de maître de territoire donné, etc. Mais ça, c'est la question, donc, parce que je n'étais pas tout à fait clair. Maintenant, pour la remarque, j'ai l'impression que le populisme, la notion qui n'a pas été probablement utilisée lors de votre présentation, et qui est la plus attachée au phénomène populiste tel que je le vois, c'est l'inquiétude. C'est-à-dire, c'est l'inquiétude du peuple, de la nation, de la société, enfin, de n'importe comment nous définissons. Donc, il y a un état de l'inquiétude, et puis il y a une réponse aux inquiétudes. Mais il me semble que ce qu'on décrit par justement avec cette notion du populisme, ce sont surtout les réponses fausses aux inquiétudes légitimes. C'est-à-dire que les inquiétudes sont légitimes, mais les réponses sont fausses et ont plutôt tendance à augmenter les inquiétudes, à les manipuler aussi que les apaiser. Enfin, les éléments que vous avez mentionnés, les mœurs et les souverainetés, le caractère, ce sont les éléments de la vie des sociétés ou bien de la vie politique qui évoluent. Elles ne sont pas constants, fixes, etc. Ce sont des éléments qui sont en évolution. Des mœurs ont beaucoup évolué dans l'histoire. Les idées de souveraineté aussi évoluent. Mais certainement, il y a des moments, et je crois que vous avez mis votre doigt sur ces deux réalités parce que c'est elles qui éveillent cette inquiétude. Où justement l'évolution qui est créée par le monde politique n'est pas en harmonie avec l'évolution, disons, naturelle, si elle existe, mais il y en a qu'elle organique, pour utiliser les mots qui sont proches aux conservateurs, etc. Cette évolution organique est plus lente que cette évolution qui est proposée ou imposée par la politique ou d'autres changements. Donc l'inquiétude s'éveille et j'ai l'impression que, enfin, c'est un phénomène des émotions. Et les populistes, les politiciens, je parle maintenant des politiciens populistes, ont tendance à agir sur les émotions surtout. Hein? C'est un peu contraire à l'idéal démocratique, il me semble, parce que l'idéal démocratique, quand même, il est aussi basé sur une émotion de la reconnaissance, de la dignité humaine, etc., comme Hegel avait bien su. Mais finalement, il y a l'idée du citoyen rationnel et de choix rationnel qui est assez inclus dans l'idéal démocratique. Tandis que justement, les populistes ont cette tendance d'agir sur les émotions qui sont la puissance majeure, bien sûr, et ils ont tendance justement de faire animer les émotions du peuple, ainsi que le peuple produit un certain repli sur soi-même ou sur les entités qui peuvent être contrôlées par les politiciens mieux que les autres. Donc, moi, je le vois un peu comme ça, c'est-à-dire une certaine tendance nationaliste, par exemple, qui est certainement présente dans la politique populiste. C'est un repli, c'est un appel à retourner à une entité moins grande, plus petite, dans le cadre européen, national, qui semble mieux contrôlable par les politiciens qui emploient justement ces outils des émotions et ces politiciens qui sont populistes. Je le vois un peu dans ce sens-là, la politique des émotions surtout, et des replis.
Je parle de la Pologne.
D'accord. Moi, je suis d'accord sur les deux niveaux que vous avez distingués entre une inquiétude des peuples et une instrumentalisation de cette inquiétude. Simplement, là où je suis peut-être un petit peu divergent, c'est que, un, je pense que cette instrumentalisation n'est pas spécifique aux partis dits populistes. C'est-à-dire qu'il faudrait quand même réfléchir à l'évolution du système partisan qui réintroduit en fait énormément justement de politique des émotions et d'instrumentalisation du populisme. Mais quand ça vient de certains partis, on s'en effarouche pas. Donc si vous voulez, c'est le problème de la démagogie hein, ou de caractériser le populisme comme démagogie. La démagogie, c'est quelque chose qui est peut-être plus partagé que ce qu'on appelle les partis populistes. Mais ça ne veut pas dire que je ne suis pas critique par rapport aux partis populistes. Hein. Ensuite, l'opposition irrationnelle-rationnelle me semble pas rationnelle. Bon, c'est ce que j'ai essayé d'expliquer. C'est-à-dire que je pense que l'inquiétude du populisme du peuple, elle est rationnelle. Et c'est pour ça que j'ai essayé de l'appuyer sur des thèmes qu'on trouve chez les grands philosophes, mais qu'on a trop souvent négligés. C'est-à-dire sur cette articulation entre le démos, au sens pré-politique, et la souveraineté de la loi, la volonté générale, etc. Je pense qu'il y a quelque chose là-dedans de rationnel. C'est-à-dire qu'il faut savoir ce qu'on veut. Si on veut des institutions démocratiques, il faut une certaine homogénéité. Ça ne veut pas dire qu'il faut être tous pareils. Ça renvoie à la question de l'imitation et du rapport entre unité et diversité. Ça ne veut pas dire qu'on doit être tous pareils. Mais il faut une certaine convergence. Sinon, on ne produit pas de volonté générale. Comme le dit Rousseau, la volonté générale, ce n'est pas la volonté de tous. Ce n'est pas l'addition de volontés particulières qui vont dans tous les sens. Comment est-ce qu'on pourrait former par miracle une volonté générale s'il n'y a pas un minimum de communauté, pas seulement dans les intérêts, mais y compris dans les mœurs? Et je termine sur l'Ancien Régime, parce que, j'ai parlé de peuple politique. Je ne pense pas que le peuple de l'Ancien Régime n'est pas une démocratie. Donc le peuple de l'Ancien Régime n'est pas un peuple politique, tout simplement. Et alors bien sûr, on peut défendre une diversité, une diversité communautaire ou interne au peuple, mais elle ne va pas s'articuler avec le même régime. C'est-à-dire qu'elle aura du mal à s'articuler avec un régime démocratique, mais avec un régime impérial, par exemple, puisque l'Empire est capable de faire coexister des communautés justement différentes. Mais la démocratie suppose cette articulation, voilà, qu'on a perdue parce que nous, on pense la démocratie comme démocratie des individus qui, par simple addition des voix, vont former par miracle une volonté générale.
Bon, une dernière intervention de Yohanan Vicky, et puis après, il va falloir qu'on laisse.
Je voudrais juste réagir à votre comparaison entre les peuples de l'Est et de l'Ouest qui se rejoignent dans leur populisme. Je ne partage pas ce point de vue. Et je voudrais juste vous dire que, et notamment, je réagirai à votre phrase sur l'éventualité que le populisme de l'Est serait une réaction à la confiscation des modes de vie, à la confiscation de la démocratie par le soviétisme, mais le maintien de modes de vie sous ce soviétisme.
Voilà, confiscation de la souveraineté.
J'ai noté. Mais voilà. Donc je suis en désaccord avec ça, parce que je pense que le soviétisme a détruit entièrement les modes de vie, et que la chute du mur de Berlin et l'ouverture à l'Europe a permis la renaissance des modes de vie. Et donc c'est exactement l'inverse qui s'est produit. Hier, les Polonais ont manifesté avec les banderoles « Nous aimons l'Europe », effarés par la possibilité d'être privés de l'Europe, entre autres parce que l'Europe signifie le retour à ce que vous appelez le refoulement du peuple. Donc, quand les Allemands ont vu la chute du mur de Berlin, ils ont crié « Nous sommes le peuple ». Donc, il y a quelque chose d'inverse qui s'est produit en Europe du Centre-Est, qui était le retour, je parle sous contrôle de Henryk Wojniakowski, je ne sais pas s'il réagit comme moi, mais je pense qu'il y a eu le retour de l'authenticité de mode de vie, y compris de la diversité de modes de vie régionaux, des parlers locaux, de quelque chose qui était détruit brutalement sous l'internationalisme communisme, qui niait le droit des peuples réels, du peuple et des peuples, et que l'Europe, y compris avec ses excès du politiquement correct, du uni dans la diversité, de la langue de bois européenne que nous connaissons, a pu restaurer. Et c'est pour ça que beaucoup d'Européens du Centre-Est aiment l'Europe et n'était pas pour Maastricht. Donc je dis, je ne suis pas d'accord avec votre phrase, confiscation
de la souveraineté.
Il y avait les deux, retour de la démocratie et retour des mœurs réelles de ce peuple, et protestation de beaucoup de ces Européens contre les populistes, les frères Kaczyński. Et pour prendre l'exemple que je connais le mieux en Pologne, mais je vois les mêmes phénomènes en Hongrie de Orban, qui sont vécus comme une nouvelle confiscation.
Ah oui.
Une nouvelle confiscation de quelque chose d'authentique. Et puis une deuxième remarque typique pour l'Europe centrale, c'est que le peuple-nation, on ne peut pas parler et voir par les lunettes françaises le peuple comme celui qui a l'État souverain comme garant du peuple. Mmh. Parce que que faites-vous de 103 ans des Polonais sans État souverain?
Mmh. Ah non, mais bien sûr, bien sûr. Ah
bah, on peut vous réconcilier tous les deux en disant que malheureusement, il s'agit de républiques au pluriel dans lesquelles il y a, comme disait Cicéron, dans le songe de Scipion, il y a, comme s'il y avait deux soleils dans le même ciel, il y a deux peuples au lieu d'un. Et en fait, quand on voit par exemple l'élection Clinton-Trump, il y a deux peuples au lieu d'un. Il y a vraiment deux peuples irréconciliables. Et donc, ça signifie que tous les deux, vous avez raison. Enfin, sans vouloir jouer Sainte-Marie des conciliatrices.
Non, mais j'ai été un peu rapide. J'ai parlé de l'histoire qui était très différente. Je ne pense pas que le schéma... Bien sûr, mon schéma du populisme convient à des vieux peuples politiques et qui veulent le retourner. Oui, tout à fait, bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que... comment dire, là où ça se retrouve, c'est soit pour retrouver une existence politique récente, soit intermittente, soit pour la conquérir. Mais dans tous les cas, il s'agit, pour les Polonais comme pour les autres peuples, il me semble qu'il s'agit justement d'avoir un État qui soit souverain, qui représente le peuple et qui soit basé sur une certaine unité de mœurs. Après, qu'est-ce que vous diriez de la Yougoslavie ? Par rapport, si vous voulez, à l'Union soviétique. Moi, ce que j'ai essayé de dire, c'est que il me semble, mais bon, je suis pas du tout savant dans ces questions, mais il me semble que l'Union soviétique a joué des nationalités pour asseoir justement sa souveraineté, et elle a attisé justement des oppositions nationales. C'est le cas de la Yougoslavie. Il y aurait bien d'autres cas à donner. Donc c'est ça que j'ai voulu dire. Sous le glacis soviétique et l'instrumentalisation soviétique des nations, alors oui, c'est plus compliqué, hein, c'est beaucoup plus compliqué, mais on a aussi observé un refoulement de la souveraineté et d'une certaine unité nationale. Voilà. Même si les chemins ont été différents. Et puis la Pologne, bon, voilà, c'est sûr, la question de la souveraineté, la question de la Russie, la question de la manière dont la Pologne a pensé trouver dans l'OTAN et l'Europe une protection. Voilà. Donc là, on voit bien qu'on est dans la dimension de la souveraineté. On voit bien qu'on est dans la dimension de la souveraineté.
Bon. Écoutez, on va vous remercier beaucoup de nous avoir éclairés.